BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO, mais avant cela, un rappel des principaux titres de l'actualité et la perspective d'une reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran qui maintient les prix du pétrole sous les 100 dollars, le baril de Brent aussi encore ce midi autour des 95 dollars. La détente persiste également du côté du marché obligataire, le 10 ans français autour des 3,65% quand même et le 10 ans allemand juste au-dessus des 3%. Le CAC 40, lui, reste dans le rouge ce midi, principalement à cause des résultats des poids lourds du secteur du luxe, Kering et Hermès, qui dégringolent après des publications plombées justement par la guerre au Moyen-Orient. Sur le front diplomatique, les dernières déclarations de Donald Trump laissent donc envisager une reprise des discussions avec les Iraniens. La guerre dans le Golfe est presque finie, a assuré le président américain hier soir sur Fox News, assurant que Téhéran souhaitait réellement parvenir à un accord. Donald Trump évoque auprès du New York Post une possible reprise des discussions dans les deux prochains jours au Pakistan. Les pourparlers entre les Israéliens et les Libanais entamés hier à Washington ne semblent en revanche pas encore porter leurs fruits. Sachez que l'armée israélienne appelle de nouveau ce midi les habitants du sud du Liban à évacuer, avertissant de frappes contre le Hezbollah, allié des Iraniens. Enfin, en France, les distributeurs sont vent debout contre le projet du gouvernement d'encadrer les marges sur le carburant. Dans une lettre envoyée à Matignon, ils réclament l'abandon du projet de décret, le considérant inapplicable et risquant de contraindre certains à vendre à perte. Les distributeurs proposent à la place une suspension temporaire de la collecte des certificats d'économie d'énergie pour faire baisser les prix à la pompe. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Écoutez BFM Business dans les grandes villes de France. En live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com.
BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner, une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de ce secteur de l'immobilier, le pro de l'IMO, des témoignages terrain de vos métiers. Et aujourd'hui, une question, et si l'avenir du bureau n'était ni sa disparition, ni sa rationalisation, mais sa montée en gamme, on verra ça dans quelques instants. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. Je vous l'avais promis en début de semaine, on a le retour de notre duo de choc de l'assurance de prêt. On va faire le tour de toutes les fausses idées, des idées reçues qu'on a sur ces assurances emprunteurs avec donc notre duo de choc, Emmanuel et Astrid, dans quelques instants. Mais d'abord, c'est donc l'heure du pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Mathieu Billard, fondateur et PDG de Gustave Collection. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marie.
Alors, je le disais en préambule, on va parler bureau avec vous et on va prendre finalement le contre-pied de tout ce qu'on n'arrête pas de dire depuis quelques temps, on va dire, allez, depuis l'après-Covid, quoi. Oui, le bureau doit changer. Est-ce qu'il doit être plus petit? Est-ce qu'il doit disparaître? Vous dites non, il doit être encore plus beau, encore plus unique.
Ouais. Ouais, exactement. Le but, c'est vraiment de réinventer l'expérience au bureau. Le bureau est pas mort. Il doit juste, se réinventer. Il doit être plus hospitalier. On doit retrouver de la cohésion. Et tout ça, ça passe par énormément de services que nous mettons à l'intérieur de nos immeubles de bureau.
Mais ça veut dire quoi en fait parce que à chaque fois on pense service, on se dit ok, on va mettre une petite conciergerie, peut-être quelque chose pour. Mais c'est quoi concrètement? Il faut que vous nous donniez un exemple très concret. Votre bureau d'exception, il ressemble à quoi?
Alors notre bureau d'exception, en fait, on est le mariage entre ce qu'on appelle encore le coworking et l'hôtellerie de luxe. On transforme nos immeubles véritablement en hôtel et on y accueille des sociétés dans des espaces privatisés qui sont les leurs, avec tout le service d'un grand hôtel. Ça passe par de la gastronomie, ça passe par du room service, ça passe par des spas, évidemment de la conciergerie, mais on sera proche de plus en plus de l'hôtellerie de luxe que du bureau à proprement dit et du mètre carré qu'on louait à l'époque.
Et alors du coup ça s'adresse à qui? Parce que pardon Mathieu, vous me donnez envie là, mais j'ai du mal à imaginer la rédaction de BFM Business partir dans un lieu tel que vous le décrivez.
Alors, on s'adresse à des grands corpos, à des fonds d'investissement et aussi à des maisons de luxe qui ont besoin de recruter des nouveaux talents, de fidéliser des talents qui sont déjà chez eux et qui ne doivent absolument pas repartir. Le but, c'est de leur offrir une nouvelle ère de vie au bureau. Donc, on travaille beaucoup avec des sociétés qui ont besoin que leur bureau soit presque plus proche de la maison que ce qu'on a l'habitude de voir dans un bureau traditionnel. Donc beaucoup de fonds d'investissement, beaucoup de maisons de luxe, beaucoup de grands cabinets d'avocats.
Bon bah pas moi du coup Mathieu, vous avez pas envie de nous prendre avec
vous. Mais si, on serait ravis de vous avoir.
Moi vous m'avez convaincu à Spa, hein. Franchement je pense que toute la rédac serait vachement bien chez vous.
Le Spa c'est alors c'est marrant parce qu'on nous disait mais un Spa au bureau c'est à quel moment on va l'utiliser? Et en fait, on se rend compte que le sport, c'est très bien, mais le spa, ça permet aussi de prendre une parenthèse de 15-20 minutes sans son téléphone et de réfléchir par soi-même sans scroller pendant 20 minutes pour rien.
Ouais, bah c'est bon, vous m'avez convaincu. À tout à l'heure, Mathieu, du coup. Merci, Mathieu.
Merci, à tout à l'heure.
Mathieu Billard, fondateur et PDG de Gustave Collection. Si, comme Mathieu, vous avez un témoignage terrain de vos métiers liés à l'immobilier au sens large, on parle beaucoup résidentiel, mais pas que, vous voyez, on parle aussi bureau d'hier, d'aujourd'hui, mais surtout de demain. N'hésitez pas à nous écrire, on a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'immo, le débat.
À mes côtés, je le disais, notre duo de choc de l'assurance de prêt. Quand je dis ça, à chaque fois, je me dis, waouh, il y a des gens qui doivent tomber sur BFM Business, qui se disent, mais ils sont fous sur BFM Business. Mais non, parce que c'est un vrai sujet, l'assurance de prêt. Et à mes côtés, Astrid Cousin, la porte-parole de Magnolia.fr. Bonjour Astrid.
Bonjour Marie.
Qui, relevé Alban, notre réalisateur, cette fois-ci n'est pas bloqué à la gare Montparnasse, et ça tombe bien parce qu'on est ravis de l'avoir en plateau. Et à ses côtés, comme d'habitude, j'ai envie de dire Emmanuel Provost, directeur général d'AFI Esca Patrimoine. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Marie.
Et alors aujourd'hui, on va parler santé et assurance de prêt avec toutes les fausses idées, les idées reçues qu'on peut avoir au moment où on prend notre assurance de prêt. Je rappelle quand même, je fais pas le petit laïus qui dure 3 heures, mais enfin quand même, quand vous prenez un crédit immobilier, il faut quand même se soucier un tout petit peu de l'assurance qu'on vous vend avec. Et parfois, on se pose beaucoup de questions et parfois, on a souvent, même souvent, on n'a pas les bonnes réponses. Donc, vous m'avez mis 10 idées fausses, 10 idées reçues sur l'assurance de prêt et la santé. On va commencer direct par la première. Si j'ai un problème de santé, je ne suis plus assurable. Est-ce que véritablement, il y a des banques ou des assureurs qui vont dire « Bah non, vous avez un problème de santé, je ne vous prends pas. »
Je commence ? Alors,
on y va, Astrid.
Je suis tellement heureuse d'être là.
Elle part partie à la gare.
Partie la veille quand même. Hein.
L'an dernier pour être plus là.
Donc si j'ai un problème de santé, je ne suis plus assurable. Donc bien sûr, c'est une idée reçue et fausse. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même une espèce de politique d'exclusion quasi systématique dès qu'il y avait un problème de santé, d'autant que c'était quasiment que les banques qui distribuaient à l'époque
L'assurance qui allait avec le crédit.
D'ailleurs, la délégation, au départ, ne servait finalement qu'aux cas qui étaient non assurables par les banques qui partaient en délégation.
Ouais.
Donc c'est quand même relativement nouveau. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est plus du tout sur cette politique d'exclusion. Bien au contraire, on est plutôt sur une politique de faire du sur-mesure, de maîtriser de mieux en mieux les risques et de justement de pouvoir permettre au maximum de gens, avec le maximum de... de permettre un maximum de pathologies d'être assurables à tarif normal ou avec surprime.
Voilà, c'est un peu ça le sujet. C'est-à-dire que c'est pas que je suis pas assurable, c'est que je vais payer plus cher. Et du coup, je me retourne vers Emmanuel et la numéro 2. Je vais forcément payer très cher
oui,
si
Marie.
J'ai un pépin de santé.
Oui, Marie, vous allez payer très cher. Non, c'est faux.
Moi particulièrement, oui, on le sait. Tout le monde le sait.
Alors, c'est faux, mais c'est pas exclu, hein, pourquoi pas. Hein. Il y a quand même des pathologies qui sont très critiques, ouais, très sévères, pour lesquelles c'est très compliqué d'assurer. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'aujourd'hui, on prend environ 97% des pathologies médicales.
Ouais.
Donc il en reste 3%. Allez, voilà. Et il y a tout un système ou de surprime ou d'exclusion, de choses comme ça, qui font que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont tarifables. Ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas forcément payer plus cher pour plein de pathologies où vous pensez que vous allez payer plus cher. Je prends un exemple. Tout à l'heure, j'avais au téléphone quelqu'un qui avait une hypothyroïdie.
Je ne sais pas de qui vous parlez.
Traité.
Attention, Emmanuel, pardon. Vous
Un petit micro.
Le micro.
Oh, pardon. Une hypothyroïdie traitée.
Ouais.
aucun problème, c'est un tarif normal. Quand vous avez aussi des hypertensions traitées, là je me bouche la vie, ou du cholestérol, là aussi.
Ouais. Bon, mais ça dépend, il y a du bon et du mauvais cholestérol aussi.
Oui, on a les deux en général. voilà. Ça aussi, ce sont des tarifs normaux dans
en
la
fait,
plupart
si
des compagnies.
En fait, si on est traité sur des pathologies finalement assez courantes, pour lesquelles on est traité depuis un paquet d'années et dont on a réussi à stabiliser les effets, finalement,
on a du recul aussi.
D'accord.
On a du recul sur les pathologies.
Donc là, on paye pas forcément plus. Parfois, on a le doute aussi. Parfois, on a le doute et on se dit peut-être que je devrais pas le dire parce que quand même, c'est peut-être risqué. Ça nous amène à notre troisième peut-être idée reçue. Si je ne dis rien, ça passera.
Alors, non.
Non.
Enfin, disons.
Enfin, ça dépend ce que je dis pas.
Disons que ça reste un coup de poker.
Ouais.
C'est voilà. Non, parce que si il vous arrive quelque chose, le jour du sinistre, on va vous demander vos antécédents médicaux, vos peut-être des bilans sanguins, historiques, vos traitements, etc. Par exemple, pour le tabac, c'est très vérifiable.
Mais non, mais alors j'ai une vraie question sur le tabac. Non pas que je me sente particulièrement concernée, mais quand même. Et pourquoi je pourrais très bien avoir arrêté de fumer et puis reprendre en cours de crédit la cigarette, par exemple.
Oui.
Oui. Mais ça faut le
oui,
dire.
Oui, Marie.
Mais ça faut le dire quand même.
Alors, chez Astrid Cousin, il faut peut-être le déclarer.
Mais chez Emmanuel Pro.
Mais souvenez-vous, Marie, nous avions parlé des contrats incontestables.
Ouais.
Vous vous souvenez de ça?
Ouais.
Bon.
Ouais.
Ça veut dire que vous ne fumez pas au moment où vous souscrivez votre
crédit. Et l'assurance.
Et puis vous ne fumez pas, vous n'avez jamais fumé. Et puis à un moment donné,
mais si je fumais,
à 35 ans,
4 ans après. Non, mais si vous avez fumé, d'accord,
ouais.
Et qu'au moment où vous souscrivez votre prêt, ça
je
fait 2-3 ans, 2-3 ans que vous ne fumez plus. Bon, vous reprenez la cigarette 1 an, 2 ans après avoir souscrit votre prêt. Bon, bah, le contrat est incontestable chez moi. Chez AFISCA, en tout cas, vous êtes non-fumeur, et ben vous restez non-fumeur, vous avez repris la cigarette.
Si,
c'est
si,
un aléa.
Si il arrive quelque chose,
c'est
comment c'est vérifiable que la personne a repris ou non il y a 2 ans? Je pense que ça peut quand même susciter quelques ennuis, mais le débat est ouvert.
Moi, je vous pose la question. C'est-à-dire que dans ces cas-là, est-ce que si je reprends la cigarette, je dois appeler l'assureur en disant, pour info, j'ai craqué, ça se passe comment?
Pas pour les contrats incontestables.
D'accord.
En revanche, il faut faire attention, parce que si demain vous avez un accident de voiture, vous décédez dans un accident de voiture. Bon, voilà, un accident de voiture, ok. Mais maintenant, vous décédez d'un cancer du poumon 10 ans plus tard, on va quand même relever quelques petits antécédents. Oh, je ne suis pas dans le micro. On va quand même relever quelques petits antécédents.
Ouais.
Donc, faut faire attention. Il vaut mieux être sincère et le déclarer.
Ouais.
Parce que la compagnie peut vous dire éventuellement, vous inquiétez pas, on prend votre état de santé, c'est déclaré, mais on prend votre état de santé à l'origine et on vous fait rien payer.
Oui,
ça peut arriver.
Parce que si vous décédez d'un cancer des poumons, vous avez déclaré que vous ne fumez pas, mais que vous avez repris la cigarette 2 ans après, je pense que vous citez quand même pas mal de problèmes pour vos enfants, etc., qui derrière vont devoir justifier. Enfin bon. Dans l'idée, je pense qu'il vous.
Vous l'avez compris, il y a un petit vide au-dessus de la cigarette.
Voilà. Ouais, il y a un petit vide. On n'aime pas ce petit vide au-dessus de la cigarette.
On va commencer.
Cigarette électronique, soit dit en passant,
pareil.
Ça se déclare aussi.
Ouais,
ça se déclare.
Du coup, ça m'amène au questionnaire médical parce que je vous pose plein de questions, mais justement, il y a des gens qui se disent, c'est une formalité. C'est la quatrième du coup de ces idées reçues qu'on brasse aujourd'hui. Est-ce que véritablement le questionnaire de santé c'est aussi important que ça?
C'est une formalité si vous n'omettez rien. Voilà, c'est une formalité. C'est-à-dire, j'ai été hospitalisé 2 jours parce que je me suis fait opérer de ça. Ok, ça c'est une formalité. Maintenant, si vous vous torturez l'esprit en disant, est-ce que je dois le déclarer, est-ce que je ne dois pas le déclarer? Non,
c'est une vraie question.
C'est plus une formalité.
Moi, je ne vous cache pas qu'autour de moi, j'ai plutôt tout ou rien. C'est-à-dire, soit on se pose la question de savoir si je déclare tout, mais tout, le moindre arrêt pour la moindre grippe ou quoi, ou d'autres qui se disent, c'est pas grave si je dis pas, et puis si j'ai oublié, c'est pas grave. Donc, la question, c'est de prendre quand même le dossier à bras-le-corps et de se dire, quelle vigilance je dois accorder au moment où je remplis ce questionnaire.
Dans l'idée, il faut savoir que ce que vous allez déclarer, que vous avez peut-être un peu oublié, même si vous le déclarez, si vous l'avez oublié, c'est que c'était pas très important et que la personne au médical va vite se rendre compte que l'arrêt, parce que vous êtes... Fouler le poignet, voilà, c'est pas ça qui va changer grand-chose à votre tarification. Donc, dans l'idée, il faut déclarer le maximum de choses. De toute façon, il y a des questions, il faut y répondre. Voilà.
D'accord.
Dites-vous, je réponds aux questions.
Bon, 5e, les assureurs cherchent à refuser les dossiers. Et oui, parce qu'on peut se dire légitimement que si mon profil, je le considère moi comme pas idéal, je vais peut-être me dire que forcément, l'assureur, il aura peut-être pas envie de m'assurer moi. Hein.
Alors, un assureur en délégation d'assurance, un assureur alternatif, non, son intérêt, c'est pas de refuser les dossiers, c'est de prendre tous les dossiers et de tarifer dans le meilleur cas, l'assuré qui se présente. C'est-à-dire que, comme c'est du tarif individuel, on ne mutualise rien, donc on ne va pas payer pour ceux qui sont en mauvaise santé. La personne qui a des problèmes médicaux va avoir une surprime, va avoir quelque chose, mais au moins, on va le prendre.
Mutualise rien, Emmanuel, quand même, j'espère, parce que notre système assurantiel fait qu'heureusement, on mutualise un peu pour éviter qu'on ait trop d'exclus, justement, de l'assurance.
On mutualise chez nous tous les gens qui déclarent une pathologie, et surtout, on a des statistiques sur ces gens et combien vont avoir des rechutes ou des arrêts de travail, etc. Ça, on a du recul. C'est pour ça qu'on parle de mutualisation quand même. Mais malgré tout, on a quand même des tarifs très, très personnalisés selon les pathologies et selon l'état de santé.
C'est de la mutualisation dans la dentelle, quoi.
Oui, voilà.
Mais donc, on en revient quand même à l'une de nos idées reçues qui était de dire, mais qui est quand même pas complètement fausse, qui est de dire, certes, effectivement, l'assureur, il va pas chercher à m'exclure, mais il va me tarifer en fonction des risques qu'il prend à m'assurer, quoi.
Absolument.
Bah oui.
C'est normal.
Alors je dis les assureurs, mais bon, en gros, c'est pareil pour les banques. On arrive à la sixième idée reçue. Les banques et les assureurs fonctionnent pareil.
Ben non, elles ne fonctionnent pas du tout pareil. Ben justement, là, on en revient un peu aux mêmes choses. Si les banques vous payez très cher dès le plus jeune âge, c'est parce que justement, vous avez une logique standardisée.
De mutualisation.
De mutualisation des risques. Et encore aujourd'hui, ils ne pratiquent plus vraiment tous le taux unique. Hein. Il y a quand même des tranches d'âge.
On parle santé, vous êtes tous les deux en train de tousser dans le micro, c'est génial.
Pardon. En tout cas, il reste quand même des tranches d'âge, donc ils n'ont même plus trop cette logique de standardisation totale, mais bon, dans l'idée quand même, parce que si tu souscris à 30 ans, avec des très grosses banques, une très grosse banque régionale, tu auras du 0,38, 0,40, quoi qu'il arrive. Tandis qu'en délégation, ce sera plutôt du 0,10.
Oui, mais du coup, ça m'amène derrière à la question de savoir si, précisément, on n'a pas plus intérêt, quand on est jeune, en bonne santé, à passer en délégation d'assurance, et plutôt quand on est plus âgé, avec possiblement des petits pépins de santé, qu'ils soient maîtrisés ou non, mais enfin voilà, à rester avec l'assurance de la banque. Dans ces cas-là, si je suis un peu le fil de la discussion.
Bah, la logique que je répétais à longueur de temps, c'est d'aller comparer, hein, vous verrez bien.
Oui, ça ne mange pas de
parce
pain.
Parce qu'en fait, il n'y a pas de logique implacable, parce que les banques, elles pratiquent les taux qu'elles veulent, à qui elles veulent. Il n'y a aucune donnée vraiment transparente sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles pratiquent au quotidien. Elles ont les grilles, mais après les grilles, elles en font ce qu'elles veulent. Donc en fait, on ne peut pas dire aujourd'hui, à plus de 45 ans, vous n'avez aucun intérêt, etc. Nous, chez Magnolia, on a au moins 20 ou 30% de nos clients qui ont plus de 45 ans. Donc
d'accord.
Ça veut bien dire qu'il y a
un intérêt. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt à passer un certain âge.
Allez juste voir, en fait. C'est juste... voilà.
Mais oui, la tendance quand même, c'est de dire ça. quand on est jeune, on prend une délégation d'assurance.
On a plus d'économies à
alors,
faire.
Pendant 25 ans, on va payer des primes constantes dans certains contrats. Bon, c'est quand même très avantageux de se retrouver avec un taux qui est quand même assez imbattable.
Je vais continuer le fil là sur ce qu'on est en train de dire. C'était peut-être pas prévu, mais quand même, je le fais. Si à la fin reste que les vieux en mauvaise santé dans les banques et que les jeunes en bonne santé chez les assureurs alternatifs, ça va quand même bouleverser un tout petit peu aussi les tarifs de côté, quand même. Hein.
Ça s'appelle de l'anti-sélection.
Ouais.
Voilà. Ouais. Et non, c'est pas près d'arriver, parce que beaucoup de jeunes ménages souscrivent leur assurance encore en banque.
Bon, et du coup, on va arriver à ce moment de la septième idée reçue, mais qui nous amène régulièrement à chaque fois que vous venez à vous redire que non, c'est pas définitif, parce que moi, je l'ai pas en tête, cette idée reçue. Si vous écoutez BFM Business régulièrement, et les experts de l'IMO en particulier, vous le savez, une surprime, c'est définitif. Non, évidemment que non.
Alors, c'est surtout quand on...
Alors, il me met faux, mais il veut quand même apporter une petite subtilité.
Oui, j'apporte quand même une subtilité, parce que la précision est de taille. Lorsque vous êtes dans une compagnie d'assurance et que vous déclarez votre état de santé à un moment donné et que vous partez pour 20 ans, il est certain que vous pouvez toujours tenter, si vous avez arrêté de fumer et que vous avez un tarif fumeur, par exemple, vous pouvez toujours tenter de dire, écoutez, maintenant, ça fait 5 ans que j'ai arrêté de fumer, est-ce que je peux avoir un tarif non fumeur?
Faut attendre un petit paquet d'années quand même. J'imagine que par exemple j'ai arrêté de fumer avant-hier et que je les appelle en disant
deux ans,
qu'on peut vous réclamer un test de cotinine urinaire. Voilà. Et qui peut et ce test peut révéler qu'il y a encore un peu de nicotine dans vos urines. Donc faut se méfier.
On va jusque là pour
trouver
la cigarette.
Bien sûr, sinon c'est
Les tarifs fumeurs et les tarifs non fumeurs, il y a une sacrée différence aujourd'hui.
Et mais alors attendez, mais du coup, pardon, mais je rebondis sur ça, mais typiquement quand vous êtes à la souscription du crédit, que vous dites que, par exemple, vous avez arrêté de fumer il y a un petit moment, et ce n'est pas vrai, on peut être amené à vous demander un test pour le vérifier ?
Non, pas dans ces cas-là, vous engagez votre propre responsabilité.
D'accord.
Ouais.
Non, c'est non. Que si c'est je déclaratif. Souhaite changer
voilà. C'est à un moment donné d'accord. Si vous switchez ouais, ouais. Voilà.
D'accord, exactement. Donc il y a l'arrêt du tabac ouais. Il y a aussi une amélioration de l'état de santé. Il se peut que typiquement on ait eu un pépin il y a quelques années et ça va beaucoup mieux. Et puis il y a ces histoires de droit à l'oubli j'imagine aussi.
Oui,
quand même.
Et bien pardonne-moi, les deux se rejoignent. En réalité, ce que je voulais dire c'est qu'à partir du moment où vous résiliez votre assurance sur laquelle vous aviez une surprime et que votre état de santé s'est amélioré ou que vous avez ou que vous bénéficiez d'un droit à l'oubli de plus de 5 ans, à ce moment-là, la nouvelle assurance que vous allez prendre, évidemment, elle ne sera pas supprimée ou moins supprimée. Donc, il y a un avantage lorsque vous changez d'assurance et là, votre surprime, elle peut éventuellement même sauter.
Mais ça nous a amené, la fameuse règle du droit à l'oubli nous a amené à la 8e idée reçue, c'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que à partir du moment où ça fait plus de, alors je sais plus, c'est 5-10 ans en fonction aussi de certains cancers, etc., après la rémission et tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on oublie, c'est terminé, ça ne compte plus dans le tarif que va... Je suis pas obligée de le dire?
Ouais, non, exactement.
Ouais, pas obligée de...
Et mais si c'est pour une renégociation en cours de route avec la banque ou l'assureur que j'avais déjà, lui, il va complètement supprimer la surprime ou il va l'abaisser simplement?
Enfin... Non, il y a peu de chances qu'il l'a. Si vous gardez le même assureur, il y a peu de chances qu'il vous l'enlève.
D'accord.
Parce que lui, il a connaissance.
Ah, et donc du coup, en fait, voilà. Le droit à l'oubli, il est quand même particulier. Il est pas.
Non, il est pour tout assureur qui ne vous connaîtrait pas, il est logique. Il est logique.
C'est un peu le truc, je suis pas rancunière, mais j'oublie pas quoi. C'est un peu ça.
Après,
quoi.
Après, juste une information très importante. Si demain vous remplissez un questionnaire de santé et que vous déclarez que vous avez eu un cancer il y a 8 ans, etc., mais qu'il est, mais vous le déclarez, c'est-à-dire que vous n'avez pas cette notion de droit à l'oubli.
Ouais.
D'accord. Dans la majorité des compagnies d'assurance qui vont recevoir votre dossier, on va voir que votre cancer date de plus de 5 ans et on va vous faire bénéficier du droit à l'oubli.
D'accord.
Voilà, donc soyez quand même serein.
Donc mieux vaut quand même presque tout dire parce qu'effectivement...
Mais quand on n'est pas sûr sur la date, vous voyez, on n'est pas sûr, 5 ans, à partir de quoi, rémission, machin, etc., il vaut mieux
et
le déclarer.
Et puis ça dépend des pathologies aussi.
De toute façon, techniquement, si vous n'avez pas eu le droit à l'oubli... Au moment où vous avez souscrit, vous étiez encore sous traitement en post-cancer, c'est quand même compliqué que vous ayez obtenu une assurance de prêt à l'époque.
Oui, mais si on emprunte 3-4 ans après la fin de ces événements-là, on est dans une situation où on a oublié un peu les délais. On se dit, bon, allez, est-ce que c'est fini? Est-ce que je suis en rémission? Est-ce que ça marche?
C'est ultra probable. Enfin, bon.
Voilà. Ouais, ouais.
Bon, puisqu'on parle de maladies sérieuses et qui peuvent forcément aussi compromettre l'obtention du crédit et donc de l'assurance, est-ce que c'est ça le vrai risque, le décès, la mort?
Non, le plus gros risque, c'est... le plus gros risque, bon, c'est pas le vrai, mais en tout cas, 50% des sinistres en assurance de prêt sont les incapacités de travail, les maux de dos... Et les troubles psychologiques, dont ça va être burn-out, dépression, ouais. Etc. Ça, c'est vraiment 50% de ce que...
Des prises en charge.
Des prises en charge des assurés.
Ouais. C'est-à-dire s'ils se protègent bien au moment où on souscrit l'assurance, quoi, en fait.
Exactement.
Hein
ouais. Donc, oui, c'est le vrai risque, en fait, c'est de ne plus pouvoir travailler, donc avoir des revenus qui vont pouvoir vous faire rembourser votre emprunt, quoi. C'est ça, le vrai risque.
Les assureurs, actuellement, ne sont pas très embêtés par les décès. Voilà, les décès, ça arrive bien, et puis il y a des sinistres qui sont tout à fait normaux. Voilà, il y a pas de véritable changement depuis des années sur la garantie décès. En revanche, il y a une explosion des arrêts de travail aujourd'hui. Je crois qu'il faut vraiment le signaler. Aujourd'hui, vous allez les compagnies d'assurance revoient leurs tarifs en invalidité, en incapacité. Ouais. Elles sont même prêtes à baisser leurs tarifs d'essai pour prendre un petit peu plus sur le tarif invalidité et incapacité de travail, parce que on a une explosion. Regardez les arrêts de travail, on a plus 30% depuis 3 ans, etc. Bon, les compagnies, elles sont pas épargnées.
Il y a certaines professions, quand on nous annote une profession, par exemple, chose assez assez étrange, mais en tout cas, professeur des écoles bref, professeur au collège, etc., c'est des professions qui sont très, 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 très touchées par les burn-out. Et en fait, ça rentre quasiment dans une autre catégorie où c'est des professions qui vont payer plus cher que.
C'est quand même dingue hein, qu'on arrive quand même.
Aujourd'hui, on arrive un peu à fixer ça par les professions, etc. Mais comme dit Emmanuel, en fait, on est encore à l'aveugle là-dessus, en fait. Donc c'est hyper nouveau et c'est peu maîtrisable et c'est ce qui embête le plus les assureurs parce que c'est très difficile de tarifer les MNO, donc les maladies non objectivables, justement, comme le nom l'indique, c'est non objectif. On n'est pas encore complètement objectif là-dessus.
Lorsqu'on a mal au dos, on a mal au dos. On ne sait pas forcément ce que c'est.
Ouais, bien sûr.
Lorsqu'on est dépressif, on ne sait pas forcément d'où ça vient. Mais ce que je veux dire, c'est que ces arrêts de travail rejoignent parfaitement les problèmes sociétaux actuels.
Mais d'où ma question aussi, après on va se dépêcher parce qu'il n'en reste qu'une minute, mais justement, vous parlez des arrêts de travail et il y a aussi cette question du chômage. Vous dites, c'est quand même des indicateurs avancés sur ce qu'on traverse aujourd'hui, ce que vous avez à intégrer au moment de cette assurance de prêt. Typiquement, ce risque chômage, là aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux que je m'assure sur la perte de l'emploi, par exemple? Est-ce que c'est des choses... parce que j'imagine que ça, pour le coup, en fonction de l'état du marché du travail, ça peut être très surprimé. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça.
T'ajouteras ce que tu veux, mais en tout cas, non, la perte d'emploi, la garantie perte d'emploi, c'est hyper cher, premièrement. Deuxièmement, ça fait quasiment doubler votre tarif. Hein. Deuxièmement, il y a des délais de carence, je cherche mon mot.
Il y a un plafond.
Il y a un plafond.
Il y a un plafond de remboursement.
Il y a des conditions.
Des conditions draconiennes.
Donc en gros, quand bien même, ça vaut pas le coup.
Quand bien même je suis couverte, en réalité, ça va pas me couvrir. C'est ça que vous me dites?
Non.
Donc en gros, quand je reçois la proposition, que ce soit de la banque prêteuse ou d'un assureur, peu importe, si je vois qu'il y a une couverture garantie perte d'emploi, je dis non, je n'en veux pas.
Non, en général, la perte d'emploi, elle s'achète, elle ne se vend pas.
Ouais, exactement.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment très angoissé pour son avenir.
Il faut que je la demande, mais on va pas me la suggérer.
Mais attention, maintenant, quand même certainement qu'il l'a plus assez.
Mais il faut négocier pour ne pas la prendre.
Bon, il nous reste 20 secondes pour le dernier, parce qu'effectivement, une fois qu'on a dit tout ça, on se dit, oh, vous savez, tout est automatisé, personne ne va vraiment regarder mon dossier.
Si, bah alors nous, enfin, en tout cas, il y a peut-être 90% des pathologies, nous, qu'on arrive à tarifer.
600 pathologies tarifables.
Ouais.
Digitalement.
Et oui, mais c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle ou j'ai
Non, c'est pas l'intelligence artificielle. Enfin, nous, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est les statistiques, c'est ce qu'on tarifait avant, sauf qu'on les a mis dans un ordinateur. Et dès qu'on clique cholestérol, machin, etc., voilà.
Mais en tout cas, c'est checké, peu importe. Pensez pas que vous allez passer entre les mailles du filet, c'est checké. Je suis désolée, on aurait pu continuer à en parler, mais il y a Alban qui m'a dit on s'arrête dans l'oreillette, qui a mis la musique de l'émission pour me dire. Il faut raccrocher, Marie, il faut raccrocher. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. C'est toujours passionnant, hyper intéressant. Si vous avez un crédit à décrocher ou une assurance à renégocier, écoutez bien cette émission. Emmanuel Provost, directeur général d'Affiesca Patrimoine, et Astrid Cousin, porte-parole de Magnolia.fr. Merci à tous les deux. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode des Experts de l'Immo sur BFM Business.
Les Experts de l'Immo sur BFM Business.